Mémoire vive, aujourd'hui on va vous emmener dans le Pila, dans un très joli petit village au délicieux nom de Saint-Julien-Molamolette. Et Maurice Bedouin, on va vous présenter un ouvrage et un homme assez exceptionnel.
Oui, alors l'ouvrage, écoutez, ça a été un vrai régal de le tenir en main d'abord parce qu'il est volumineux. Et puis quand on l'ouvre, on découvre quantité de photos et aussi quantité de dessins originaux. Coloré. Et puis pour finir, mais on y reviendra bien entendu, pour finir, un échantillon de mousseline dont on tâte avec les mains la qualité soyeuse et pour laquelle on est invité à sentir l'odeur des coupes de tissu.
Alors, donnez-nous le titre de ce livre.
Saint-Julien-Molamolette et son patrimoine lié à l'industrie textile. C'est un ouvrage collectif, mais nous recevons aujourd'hui la personne qui a fédéré toute l'équipe, Hubert Sage, et c'est édité chez Jean-Pierre Huguet.
Un livre, donc, qu'on respire. Alors, je connaissais les livres pour enfants qu'on touche, mais qu'on respire, c'est quand même assez extraordinaire. Allez, on se lance donc dans l'aventure. Moi, je pose un peu la question naïve. Saint-Julien-Molamolette, quel nom bizarre, cher ami.
Ben, initialement, c'était Molin-Molette, et on devrait prononcer Moulin-Molette. Donc, Moulin, par la présence de nombreux moulins à moudre. Initialement. Et puis Molette, petite meule, qui était entraînée par les moulins pour l'affûtage des armes blanches.
Voilà, Saint-Julien-Molamolette. Et puis alors, on va faire connaissance maintenant avec Hubert Sage, l'auteur du livre, enfin, qui a dirigé le livre.
Alors, monsieur Hubert Sage, comment avez-vous eu l'intention de construire ce livre avec vos amis ?
Ben, j'avais commencé déjà de faire un inventaire de tous les systèmes hydrauliques du village, 16 fabriques réparties régulièrement le long de la rivière et qui en prenaient l'énergie.
Fabrique, il faut dire, c'est le terme technique que vous utilisez pour ces usines, on dirait.
Ben, usine, c'est le mot moderne.
C'est le mot moderne.
Mais quand on remonte dans le temps, c'était la fabrique.
La fabrique, 16 fabriques.
Voilà. Et à un moment de... Le syndicat d'initiative, donc le président, a dit il faut qu'on écrive un peu l'histoire de la soie, faire une expo. Il y a une petite exposition sur la soie et on est venu, comme on savait que je travaillais déjà un peu dessus, on est venu me demander si je voulais participer. J'ai dit bien sûr. Donc on a recommencé ça. Et puis il y a une des dames qui est très attachée à ce village qui m'a dit tout est en train de se perdre, il faut qu'on travaille sur cette mémoire de la soie à Saint-Julien. Donc cette première exposition y a aidé un peu. Et puis à l'issue de cette expo, j'ai dit bon, ben, on part sur cette histoire de ce patrimoine. Et progressivement, le président du syndicat d'initiative qui avait déjà fait des recherches, Christian, est venu et m'a rejoint. Et
alors, on va voir l'équipe. Vous êtes un piraillon, donc. Alors, piraillon, c'est aussi un mot étonnant. On a les couramiaux dans la Loire, on a les aplous. Les habitants de Saint-Julien s'appellent donc les piraillons.
Piraillon, alors on pense que ça vient du pirail. C'est à l'origine les paysans du coin qui utilisaient une pierre qui venait en surface, qui faisait partie du minerai de plomb, et que avec cette partie de pierre broyée, ils arrivaient à faire l'émaillage de leur poterie. Et quand Blumenstein est arrivé vers 1717, il a obtenu l'autorisation du roi d'exploiter ces minerais de plomb. Donc à partir de ce moment-là, les gens qui utilisaient ce pirail se sont révoltés. On les appelait les piraillons.
Les piraillons.
Les piraillons. Enfin, c'est un résumé. Il faudrait continuer pour en savoir plus.
Alors, vous avez vécu enfant dans ce monde de la fabrique.
Ah, je reste encore tout imprégné de souvenirs d'enfance.
Alors, racontez-nous un peu le petit Hubert, là. Il courait dans la fabrique
Pas trop courir, mais mes parents, ma mère était tisseuse, mon père était employé, homme à tout faire, fermier, jardinier, entretien des propriétés. Et quand on arrivait de l'école, il n'y avait personne à la maison. On allait s'asseoir à côté du métier à tisser. On n'avait pas trop le droit de bouger parce qu'il y avait des navettes qui pouvaient traverser, la navette qui conduisait le fil de tram, qui partait à grande vitesse. Et quelquefois, ça lui arrivait de quitter sa trajectoire, de passer. Alors, il y avait toujours des grilles en bout pour pas qu'elles allent dans les vitres de la fabrique. Donc, on n'était pas trop invité à se déplacer. On n'y allait pas tout le temps, mais j'ai été bercé par le bruit, du métier à tisser.
La mémoire est aussi une mémoire sonore.
Oui.
Alors après, vous avez quitté... Saint-Julien, mais vous avez toujours eu un attachement très fort pour
orienté vers les métiers de la mécanique.
C'est
parce
pour
que
rien.
J'avais observé tous ces mécanismes qui contribuaient à ce que le fil de soie devienne tissu, toutes les machines, et puis surtout le métier à tisser qui est assez complexe, comme mécanique automatisée, entre guillemets, à l'époque, d'une façon assez ses caractéristiques.
On verra d'ailleurs toute la partie centrale, qui est une partie où vous expliquez comment fonctionnaient les machines, qui est remarquablement pédagogique, parce que pour un ignare comme moi, on comprend très bien, c'est assez magique quand même.
Et oui, tout peut être abordé sous l'angle de l'énergie, sous l'angle de la lumière, sous l'angle de la matière aussi, la soie.
On va peut-être commencer. Alors, vous avez réuni autour de vous une équipe progressivement de passionnés. Très, très divers, cette équipe.
Oui, et complémentaire.
Et complémentaire.
Ouais. Et on a travaillé pendant 4 ans à collecter, à lire, à écrire, à rediscuter ce qu'on pouvait mettre. Enfin, le plan avait été déjà monté pratiquement depuis le départ pour arriver donc... au fil de l'eau, le fil de soie devient tissu, donc on avait notre schéma. Hein.
Voilà, et chacun apportant ses archives ou les archives qu'il avait collectées.
Oui, ou exploiter les archives qu'on avait pu récolter. Oui.
Et puis, dire un mot aussi de l'illustrateur, parce que c'est d'une qualité absolument extraordinaire. Alors, ce peintre, je ne sais pas comment dire...
Ah, c'est un professeur des Beaux-Arts à retraite, donc de l'école de Grenoble, qui est pour le moment vit au village et s'intéresse un peu à tout l'environnement.
Et vous l'appelez Casa.
Il se fait appeler Casa.
Il se fait appeler Casa, voilà. C'est un diminutif de son nom qui est un peu plus long.
Pierre, voilà. Son prénom, mais c'est...
Pierre Casa.
Pour nous, c'est Casa. Donc il est rentré dans le jeu, et puis il a saisi avec son crayon, ses couleurs, les fabriques. Nous, initialement, on avait dit on va les extraire d'anciennes photos, cartes postales. Mais c'était un peu vieillot, quoi. L'éditeur a préféré une autre dimension.
Et il est allé même jusqu'à reconstituer certaines fabriques disparues à partir de photos, d'archives.
Oui.
Et son travail va jusqu'à la fin du livre, où là vous avez une vue cavalière de la rivière et des installations usinières qui est pliée en accordéon.
Ah, ce dépliant, on y tenait. Nous, initialement, on avait pensé qu'on ne pourrait faire rentrer que ça dans 2 pages centrales. Et notre éditeur nous a dit non, il faut qu'on fasse mieux, ça le mérite. Donc, il nous a proposé l'accordéon. Bon, ça fait quand même 1,20 m, un déplié.
Vous vous rendez compte, Pierre-Antenne, hein ? Vous le dépliez sur votre table. Et alors, il y a le recto verso, en plus.
Oui, alors, d'un côté, avec les couleurs, les montagnes, la verdure de
Saint-Germain-en-Laye.
C'est
magnifique.
Une peinture de Casa, et puis là-dessus, la rivière qui traverse, et le cordon ombilical de la fabrique relié à cette rivière, parce que la fabrique ne pouvait vivre que grâce à l'énergie, au début, à l'énergie hydraulique.
Et alors au verso ?
À l'autre côté, on a tenu à ce que ça soit un élément du cadastre pour voilà. que la mémoire de l'emplacement de ces canaux reste bien inscrite.
Absolument, voilà. Absolument impeccable. Alors, pour terminer la présentation de l'ouvrage, ben, il faut parler maintenant de Jean-Pierre Huguet, parce que c'est un travail pour un éditeur, c'est un casse-tête, mais c'est formidable en même temps.
Alors, on a la chance d'avoir à Saint-Julien-Malamolette Jean-Pierre Huguet, éditeur, qui est passionné de ce patrimoine aussi, et qui s'est passionné pour notre ouvrage. Nous avons livré 350, 380 pages bien garnies, et pour que ça soit à la portée de tout le monde, un peu trop de détails, un peu trop de choses techniques, le secrétariat d'édition a repris tout ça, et nous a livré, et nous a présenté 185 pages, mais les 185 pages ont été discutées entre les auteurs et l'éditeur, toute l'équipe, hein, parce que je ne représente qu'une équipe, hein, tout seul, 4 ans à 11, 44 ans de travail, ça me paraît, c'était plus possible.
Hein. Alors, le résultat final, il est tout à fait étonnant. Il est tout à fait étonnant, c'est un livre de grand format, et je dirais, chaque double page est originale. Avec des cartes postales, avec des dessins techniques, avec des photos, avec des textes de différents ordres, avec des facsimilés. C'est un travail étonnant. Ça a été un grand bonheur, probablement, de rassembler tout ça.
Oui, oui. Et surtout... du texte, mais juste ce qu'il fallait, mais beaucoup, on est dans la civilisation de l'image, il fallait des images pour attirer l'attention et aller rechercher le détail.
Et vous avez réalisé ce travail au moment où il fallait le faire, parce que vous aviez encore quelques témoins qui ont pu vous apporter des précisions.
Et on est dans la dernière génération qui pouvait témoigner.
C'est là que je suis né, que j'ai vu la lumière, au pied des cheminées qui ne fument plus guère. À l'ombre d'un colosse de métal et d'acier qui a roulé sa bosse et aujourd'hui s'assied dans son lit de copeaux pour l'éternel repos, te laissant solitaire. Oh, ma ville en poussière. Oh, ma vieille ouvrière. Je creuse ta mémoire, je creuse tes entrailles, je réveille tes rues noires et tes bleus de travail. Le rouge de tes forges et tes petits métiers, les chansons dans ta gorge de Clément et Potier. Les lundis au boulot, les dimanches au goulot, pour tes fils et leurs pères. Oh, ma ville en colère. Vieille ouvrière. J'entends le battement de ton cœur épuisé, le long halètement du vieux fer à souder. Tes vilebrequins se taisent, ta sirène oublie l'heure. On a sucré tes fraises, exilé tes fraiseurs. Toises nos automobiles, coincées dans tes artères. Oh, ma ville en jachère. Oh, ma vieille ouvrière.
Jean-Claude, je me permets, je viens de vous faire écouter La vieille ouvrière de Frédéric Bobin, un artiste lyonnais qui avait interprété cette chanson à Saint-Julien-Molette il y a 7 ans pour le Festival des Oiseaux Rares. Et maintenant, je vous rends la parole.
Voilà, bien, c'est Julien Vaugilac, c'est exceptionnel que le technicien intervienne, mais il a une tendresse particulière pour Saint-Julien-Molette, pour ce festival sur lequel il travaille régulièrement chaque été. C'est l'occasion aussi de dire que ce village, eh bien, c'est un village où il s'est passé plein de choses, mais qui continue à vivre aujourd'hui beaucoup de ses fabriques. sont maintenant occupés par des artistes. Il y a une vie culturelle intense. Ce ne sont pas un champ de ruines, ces fabriques, et ça doit vous faire plaisir, Hubert Sage.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Et par exemple, le Festival de la chanson avec Michel Bernard nous amène tous les deux ans beaucoup de monde. Et puis, nous avons une autre fabrique, l'ancien moulinage, le moulin à tordre, Sainte-Julie, où les Sainte-Julie a investi pour créer une structure d'accueil d'artistes, musiciens qui viennent créer leur spectacle. Ils sont accueillis, chambres, restauration, un lieu magnifique.
Et puis le prébatoire, alors, est installé Jean-Pierre Huguet, c'est la transition avec...
L'imprimerie, oui, l'imprimerie du prébatoire, et puis sa maison d'édition dans Sainte-Marthe. Alors, il y a beaucoup de fabriques qui portent le nom d'un saint.
Ouais. Alors, expliquez-nous.
Sainte-Marthe, on pense que c'est Jules et Pancras Coron qui ont fait construire ça au milieu du 19e. Et Marthe était la mère de Jules et Pancras. Et Julie, peut-être par rapport à Jules, mais pour qu'il y ait une Sainte-Julie. Après, ça s'est appelé Saint-Étienne aussi, mais bon, c'était avec d'autres patrons, changement de propriétaire.
Parfois des contremaîtres, parfois des gareurs.
Ah oui, surtout le nom de contremaître, oui. Ah oui. Oui.
Alors, on est en train de vous présenter dans ce numéro de Mémoire Vive un livre magnifique concernant le patrimoine industriel de Saint-Julien-Molay-Molette. On est avec Hubert Sage, le maître d'œuvre, avec toute son équipe autour de lui. Et on va parcourir maintenant le livre. Alors, au fil du temps, au fil de l'eau, le cœur du livre, c'est la rivière. Une toute petite rivière.
Le Ternay, oui, un peu plus qu'un ruisseau, pas un torrent, sauf quand les orages se déchaînent sur le massif du Pila, ça descend un peu plus vite, quoi, et un peu plus gros. C'est vrai que le livre se décline d'abord Saint-Julien-Molay-Molette pour situer où on est, et rapidement sur ce qui a fait son importance, c'est-à-dire sa rivière, puisque l'énergie hydraulique utilisée, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que la soie est venue dans cette région, ce versant méridional du Pila, parce qu'il y avait l'énergie, un peu parce que ça allait coûter moins cher qu'à Lyon, c'était la délocalisation avant ce qu'on connaît, mais c'était une des premières délocalisations, et donc cette énergie hydraulique, les canaux reliés à chaque fabrique, retour à la fabrique suivante, l'énergie renouvelable, ce qui avait fait tourner une fabrique en faisait tourner une autre, il n'y avait pas de jaloux, si, parce que certains étaient amenés à tricher pour avoir un peu plus d'eau, donc il y a eu beaucoup de procès entre patrons, ce qui nous a amené pas mal de documentation pour comprendre un peu et éclaircir de nombreux points de l'histoire.
Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que bon, c'est au fil de l'eau, mais il y avait plein de canaux de dérivation. On a l'impression que chaque goutte d'eau était utilisée plusieurs fois avec une subtilité étonnante.
Ah oui, 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 bien sûr. On a un schéma traditionnel de captage. On prend l'eau. On barre, on fait un petit barrage qui s'appelle une chaussée. D'autres l'appellent une levée, mais c'était le terme en Saint-Julien, c'était la chaussée. Un canal qui part à la fabrique. L'eau passe par la roue hydraulique et ressort de la fabrique et part à la fabrique suivante. Mais il y avait également la possibilité de détourner l'eau s'il y avait un problème, de ne pas laisser aller l'eau sur la roue hydraulique, mais de la laisser repartir à la rivière. Et on retrouve ce schéma 16 fois.
Et dans la même usine, le canal peut activer 2-3 roues de pêche.
Alors, au moins une. Oui. Une puissance suffisante. On a un exemple, par exemple, une des plus anciennes de ces fabriques avait 2 roues à aube. Donc ça suppose qu'il y avait un nombre de machines relativement important.
Alors, sachant que l'été, vous avez des étiages et qu'à ce moment-là, la main-d'œuvre était obligée de chômer.
Non.
Non ?
Non, non, non. Il n'y avait pas de chômage parce qu'il n'y avait pas d'eau. On ne pouvait plus travailler, mais on regagnait la ferme familiale.
Ah oui.
Et là,
ah oui.
Là, ça carburait, on ne s'arrêtait pas. On s'arrêtait pas.
Bien entendu.
Alors, la soie, vous allez nous raconter dans quelles circonstances elle est arrivée, mais les moulins, d'abord, ça a été des moulins tout bêtes, si j'ose dire, pour l'huile et la farine.
Les moulins à moudre, oui, à moudre. Oui, les farines. Et puis également, tout au début, les moulins qui étaient donc pour l'affûtage des jambes blanches et qui faisaient tourner les molettes, des moulins à molettes.
Alors l'arrivée de la soie, c'est aussi une aventure étonnante, ça.
Et on sait à peu près, approximativement, vers le milieu du XVIIe siècle. On a une trace d'un tissotier de soie, mais c'était du tissage à main, à domicile. Et il y a eu quelques élevages de vers à soie aux environs. C'était un appoint pour la fermière, mais le cocon arrivait des magnaneries de l'Ardèche et d'ailleurs. Et par la suite, ça sera le Japon et la Chine.
Alors, le Japon et la Chine, on peut en parler. Ils vous montrent des documents incroyables. Saint-Julien était connu en Chine. Il y a des habitants de Saint-Julien qui sont partis régulièrement, oui, qui partaient régulièrement en Chine.
On a notamment une carte postale. Alors, cette carte postale, on la trouve en détail dans Saint-Julien Malamalette autrefois, illustrée un album de cartes postales anciennes où on a retrouvé cette carte et on a repris un peu dans l'ouvrage pour rappeler cette liaison avec les fournisseurs du fil.
Alors, vous expliquez très bien toute la filière de fabrication du fil et ensuite du tissage. Alors, donc, on part du cocon.
Le fil arrivait plutôt sous la forme en flotte.
En flotte. Hein,
en flotte, c'est-à-dire que le fil de soie est déjà composé de plusieurs cocons déroulés, 6, 8.
Hein, j'ai appris qu'un cocon, c'est 500, 700 mètres de fil.
Même plus,
mais 1000, c'est fou.
1200 mètres, oui. Il faut imaginer la promenade du ver à soie.
C'est minuscule.
Oui, c'est pas
beau. Un fil qui ne casse pas.
Relativement solide, oui, mais composé de plusieurs baves. Et pour pouvoir l'utiliser, le faire en sorte qu'il devienne tissu, il faut prendre ce fil et le tordre sur lui-même, lui donner une certaine souplesse.
Donc c'est le moulinage.
Là, c'est le moulinage, le moulin à tordre. C'est une des phases.
Mais avant, on imagine, je me dis bêtement, c'est un petit peu comme de la corde, quoi, hein, comme de la ficelle. C'est plusieurs brins qui sont enroulés les uns sur les autres pour faire quelque chose de solide, quoi.
Oui. Mais c'est
minuscule.
C'est le diamètre. je ne sais pas, l'échantillon de tissu qui est dans l'ouvrage. Oui. Il faut voir les fils de chaîne et les fils de trame et penser que l'ouvrière avait à surveiller la moindre rupture d'un fil, parce que ça arrive que le fil casse dans la tension de la chaîne, dans la trajectoire de la navette pour la trame. Bien, il fallait être assez attentif, parce que voir un fil, il manquait un fil. Il fallait reprendre et enlever ce qui était tissé pour remplacer le fil manquant.
Alors, je ne sais pas si ça vous a frappé, Maurice, mais c'est l'extraordinaire technologie.
Ah oui.
Alors qu'on est au 19e siècle, c'est d'une complexité, d'une subtilité, d'une précision qui est invraisemblable. Moi, ça m'a sidéré parce que, bon, on imagine le monde paysan du 19e siècle, et là, juste à côté.
Et avec la volonté d'intégrer toutes les tâches. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que Saint-Julien Molamolette ne soit spécialisé que dans une tâche et que les profits se fassent à l'extérieur. Mais là, les entreprises avaient intégré la totalité jusqu'à l'impression.
Oui, initialement, c'était le moulin à tordre. Le fil arrivait pour sa torsion, donc il arrivait en flotte, il fallait le dérouler cette flotte, l'enrouler sur la bobine qui passe ensuite au moulin à tordre. Et après, quand le fil était tordu, il avait sa torsion. Il faut fixer cette torsion parce qu'un fil de soie, un fil, c'est un peu comme un élastique. Quand vous le tordez et vous le lâchez, il revient sur lui-même. Le fil de soie revenait sur lui-même. C'est d'ailleurs la difficulté lorsque la machine hydraulique s'arrêtait ou après avec l'électricité, lorsqu'il y avait une coupure de courant, c'est que la partie tordue revenait sur elle-même. Donc cette fixation de la torsion se faisait en étuvage, c'est-à-dire au vaporisage, on appelait ça le vaporisage.
Et puis la suite des opérations va continuer parce qu'on ne va pas se contenter de tordre le fil, si j'ose dire, ce qui était déjà pas mal.
De la flotte, il y a le dévidage. Le dévidoir, la dévideuse, on voit tous les métiers tout de suite. Le moulin à tordre, le moulinage, le moulinier, la moulinière. Ensuite, il fallait passer au vaporisage. Du vaporisage, c'est la bobine qui revenait du vaporisage, il fallait la remettre sur une nouvelle bobine, parce que c'est la partie qui passait au vaporisage, ça ne pouvait pas être une bobine en bois, c'était un tube de carton qui, après être passé à l'étuvage, il ne restait pas grand-chose, mais il restait quand même le fil.
Bien sûr.
Du carton, il restait pas, ça perdait sa solidité. Donc il fallait de nouveau rembobiner, et la bobine ensuite que l'on obtenait allait soit pour faire la trame sur la canetière, soit pour faire la chaîne à l'ourdissage.
Oui. Alors, l'ourdissage, vous montrez des photos aussi, c'est assez étonnant, ces espèces de peignes qui permettent d'installer justement le...
Pour guider le fil. Mais il y avait plusieurs mises pour faire la largeur du tissu. Il aurait fallu, si on prenait un ourdissoir avec la largeur du tissu complète, le nombre de bobines qu'il fallait, alors j'ai pas le nombre en tête, mais alors on faisait plusieurs mises. On faisait une petite largeur, on juxtaposait une autre petite largeur, ensuite, et puis après, il fallait qu'on avait mis toute la longueur de chaîne que l'on voulait, il fallait dévider ce qui était sur le tambour de l'ourdissoir, le ramener sur un cylindre de bois, donc la chaîne qui allait partir sur le métier. Alors la complexité de la machine, c'est naturellement après le métier à tisser. Ouais. Parce que chaque fil de chaîne occupe une position, il monte et il descend. Et le fil de trame passe au milieu de ces fils. Il passe en slalom. Mais la navette ne peut pas passer en slalom. C'est le fil qui prend sa position haute, un fil haut, un fil bas, un fil haut, un fil bas, ce qui fait que la navette passe à travers. Mais on peut faire un croisement différent.
Ouais.
Que le croisement simple, donc ça donne des tissus de qualité différente et de noms différents.
Alors vous les citez, il y a la soie grège, l'organcin.
Oui, la mousseline. Et ça, Saint-Julien avait surtout crêpes et mousseline.
Et alors au-delà du tissage, vous faisiez la teinture aussi.
Il y a eu de l'impression sur étoffe, oui.
Ouais. Avec des mouchoirs qui étaient très réputés.
Des foulards. Oui. Mondialement connu, nous dit l'abbé Chaland en 1852 dans son ouvrage. Il existe sur l'histoire de Saint-Julien trois ouvrages marquants. C'est l'abbé Chaland, je n'ai plus le titre de son ouvrage.
Qui présente déjà...
En 1852,
un panorama intéressant.
Oui, très, très, très résumé. C'est dommage qu'il ne nous en ait pas laissé plus. Ça ne nous aurait pas gagné du temps, mais d'intérêt pour la mémoire de tout ça. Après, on a eu Joseph Bancel, donc une de ses filles, a repris toutes ses notes et a donné un ouvrage sur l'histoire de Saint-Julien. Mais très peu, il n'y avait que 4 pages. L'abbé Chaland, il y avait 4 pages sur la partie industrie de la soie. Joseph Bancel un peu moins, mais le combiné des deux nous a permis de trouver des pistes et d'agrémenter notre ouvrage avec leur travail de recherche et de compléter.
Et alors autour de ces 16 usines, vous aviez tout un univers d'artisans, des menuisiers, des forgeurs, des mécaniciens.
Ouais, toutes les professions annexes, oui.
Ouais. Ouais.
Et des tourneurs sur bois, parce que les bobines... Il fallait les faire, les réparer, ça, ou les remplacer.
Donc on imagine combien d'habitants à peu près dans la grande époque. La grande époque, c'est les années de l'entre-deux-guerres, c'est avant.
Moyen du vers 1860 et puis avant la deuxième guerre mondiale.
Un siècle à peu près, hein. Un peu moins. 1860, 1930 à peu près.
Oui. C'est,
voilà. Mmh. Voilà. Mémoire vive, Saint-Julien Molamolette et son patrimoine lié à l'industrie textile, un magnifique ouvrage coordonné par Hubert Sage qui est avec nous. Alors, la grande époque de Saint-Julien Molamolette, combien d'habitants à peu près ?
2400. D'ailleurs, on a de peine à croire où pouvait se loger tout ce monde. Et ça nous a permis de regarder d'un peu plus près cette condition ouvrière et l'habitat ouvrier. On avait notamment au rez-de-chaussée une porte, une fenêtre, la cuisine, à l'arrière de la cuisine, la cave, le garde-manger, le charbonnier, au-dessus, la chambre, au-dessus, le grenier. On a une petite des illustrations qui montrent cet habitat typique. Ceux qui avaient un peu plus d'argent avaient une porte, une fenêtre, et en haut, deux fenêtres, et le grenier, et puis quelquefois un premier étage, un deuxième étage. On voit très bien, quand on traverse Saint-Julien, cette répartition de l'habitat.
Et puis il y avait aussi la maison du maître, parce que qui tenait, qui était contre la fabrique.
Toutes les fabriques les plus anciennes, la maison du maître était attenante à la fabrique.
Et alors pourquoi ?
Parce que l'énergie hydraulique utilisée demandait une surveillance en cas de crue ou en cas de manque d'eau. Il fallait impérativement vérifier que la roue hydraulique était bien alimentée pour avoir toute sa puissance pour entraîner les machines. Parce que des ralentissements ou des arrêts avec le moulin à tordre provoquaient des arrêts de machine.
La perte du matériel.
Avec la torsion du fil sur lui-même, quand on arrêtait la machine, le fil il revenait sur lui-même comme un élastique tordu. Donc il fallait tout reprendre, bobine par bobine, quand il y en a des centaines et des centaines à retendre, ça faisait beaucoup de temps perdu.
Voilà, ce qui explique l'architecture presque typique de ces fabriques.
Alors le patron surveillait effectivement la nuit ce qui se passait, pouvait surveiller. Il y avait à chaque niveau de la fabrique et du moulin à tordre, il y avait plusieurs niveaux, il y avait une porte de communication de la maison du maître avec la fabrique.
Alors l'entreprise bascule dans la modernité avec l'arrivée de la machine à vapeur.
Dans l'énergie.
Oui.
Mais les machines n'ont
pas changé.
Les machines restent les mêmes.
Oui. Donc on va.
Mais là, on a beaucoup plus de façon de parler de souplesse, parce qu'on n'est plus tributaire du débit, tributaire que du conducteur de la chaudière qui doit l'alimenter sans arrêt pour avoir la vapeur nécessaire pour que la machine entraîne.
Et nouveau saut technologique avec l'arrivée de l'électricité, et qui plus est, l'électricité avec un moteur sur chaque métier.
Oui, mais on est d'abord passé par un moteur qui ira à remplacer
la roue.
La machine à vapeur qui avait remplacé la roue. Là, ça n'a pas été aussi facile que ça, parce que la livraison d'électricité, le courant arrivait, il y avait beaucoup de pannes. Donc on se retrouvait dans plus mauvaises conditions qu'avec la roue hydraulique. Parce qu'on ne pouvait pas prévoir la panne d'arrivée.
Alors, cette pleine charge de cette petite région tout entière vouée au tissage de la soie, il y a eu des grandes figures de capitaines d'industrie, on peut dire, de gens étonnants, de familles remarquables.
Eh ben, c'est ces gens qui sont venus investir dans cette contrée ont bien tiré profit, je pense. Les ouvriers n'étaient pas aussi exigeants sur le plan des salaires, mais on a quand même eu des grèves fin du 19e et début du 20e qui ont coûté cher. Qui ont coûté cher au patron, mais qui ont coûté cher aussi aux meneurs, parce qu'ils ont été amenés à aller chercher du travail ailleurs. Mais tout ça est bien, très bien relaté dans l'ouvrage, il faudrait y passer.
Et puis, rendons hommage peut-être alors moi je retiens juste le prénom, à Josette, parlez-nous un peu de Josette.
Ah non,
Josette.
On a eu la chance d'avoir connu, et elle est toujours avec nous, Josette Schmelz, l'entreprise des tissages Schmelz, qui a, elle, repris, au moment où les usines fermaient, repris avec son mari un plateau, un des étages, et un peu de moulinage aussi, de torsion. Et elle a maintenu jusqu'en novembre 2003.
Novembre 2003, à Saint-Julien-Molamalette, on faisait de la soie.
Et on tissait toujours.
Elle
s'est arrêtée en novembre 2003, parce que, bon, elle avait bien l'âge de s'arrêter. Faudrait suggérer peut-être ça à nos dirigeants. Elle a bien fait plus de 10 ans de plus que l'âge légal.
Il y a une photo très belle où
on
la voit. Donc, alors, c'est étonnant parce que c'était une femme qui a finalement été la dernière à tenir le coup.
Ouais,
quoi.
À la décès de son mari, elle a continué de mener l'entreprise avec 10, 12, 16 ouvrières.
Et dans le haut de gamme.
Ah oui, parce que c'était un créneau, c'était le créneau qui lui permettait de pouvoir continuer l'entreprise.
Alors, toute cette production était dans la dépendance étroite de Lyon. Hein.
Des donneurs d'ordre, oui, oui. Lyonnais. Le marché se faisait sur Lyon et l'achat et la vente du fil.
Et Madame Josette était dans la dépendance de chez Hermès.
Ou de grands couturiers, oui. Oui.
Alors, vous racontez aussi l'histoire étonnante du chemin de fer, parce que c'est quand même des zones un peu vallonnées, c'est le moins qu'on en puisse dire. Et alors, il y a eu un projet de chemin de fer.
Ben, on a été surpris de découvrir ce... C'était un peu connu parce que entre Saint-Apollinaire et Saint-Julien-la-Molette, des bornes avaient été placées pour le tracé de la voie. Elles y sont encore dans les prés et les fermiers nous les signalent. Effectivement, le train était déjà
à Pélissin. Alors, on est à quelle période, là ?
Bonne question. 1800 et quelques.
Hein. Ah oui, oui, oui. Mmh. Au 19e siècle, alors.
Oui, oui, oui. Ouais. Mais le train arrivait déjà à Pélissin et Maclas. Et une prolongation avait été envisagée, Maclas, Saint-Apollinaire, Saint-Julien-la-Molette, Saint-Marcel, les Annonais, où la ligne déjà rejoignait la vallée du Rhône, à Bourg-Argental, Dunières et retour sur Firminy.
Et vous fournissez une carte où on voit déjà la ligne qui est installée.
Ah, le tracé y était. On a tout le dossier, on possède tout le dossier d'argumentation pour le dépôt, pour obtenir cette voie. Enfin, les services de l'État s'étaient mis au travail pour essayer de créer effectivement cette voie ferrée sur Saint-Julien-la-Molette. Ça fait bizarre, mais ça aurait été bien qu'on ait ça.
Alors, dans les 2 ou 3 minutes qui nous restent, bon, ce livre reçoit un accueil en quelques mois très chaleureux.
Je pense, oui. Hein,
ce beau livre, vous avez des témoignages, vous avez des réactions, vous avez les gens vous en parlent, ils l'achètent d'abord. Mais...
Oui, ben, je pense que c'est difficile.
Quand même, Messine, ne soyez pas modeste. Mais, vous parlez au nom de votre équipe.
Oui, ben, je pense que tous les retours nous sont très favorables et que cet ouvrage est apprécié. Et puis vous l'avez vous-même dit et puis vous avez même été jusqu'à nous inviter à venir en parler parce que votre intérêt avait été retenu. Donc on est bien récompensé, je pense, de ce travail de mémoire.
Vous nous invitez tous à aller à Saint-Julien-la-Molette, à ouvrir les yeux, à découvrir ces usines au fil du Ternay.
Et à disposition de vos auditeurs et d'autres personnes pour des visites guidées. Il suffit de téléphoner et d'avoir...
Alors, on peut
vous accueillir.
Est-ce que ce patrimoine dont vous dévoilez la richesse étonnante, il existe encore? Ou est-ce que tout est démoli? Est-ce que vous avez un sentiment finalement... On est en train de sauver l'essentiel ou bien c'est fini, la page est définitivement tournée.
On a la chance que la majorité des bâtiments ont été investis par des artisans, des artistes qui le maintiennent. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que les pouvoirs publics s'en préoccupent davantage pour que on puisse mieux le valoriser et puis... peut-être à l'intérieur particulier à Saint-Julien, parce qu'on a vraiment un pôle particulier de fabriques disposées le long de cette rivière, de bâtisses en pierre, de belles constructions, qu'on puisse en valoriser au moins une pour faire une sauvegarde en même temps qu'un lieu d'échange, de connaissances. Enfin, il y a des idées de projets là-dessus, mais manque le plus, c'est...
C'est la volonté et l'argent.
Il y a des volontaires, mais l'argent, les financiers n'ont pas la même motivation que les volontaires. Et puis ça coûte, c'est sûr. Mais un démarrage, on peut commencer par un bout.
Et ce livre est certainement un moyen de ranimer la flamme, finalement, de montrer que ça vaut la peine de...
Et on le souhaiterait. Il ne faudrait pas que ça soit simplement la mémoire de ce village, mais que ça soit également un début d'une dynamique pour la sauvegarde, la mise en valeur.
Et alors, ça continue parce que vous nous avez apporté votre exemplaire et vous mettez des pages à l'intérieur, vous rajoutez des choses parce que ça bouge, c'est génial.
Alors, on ne veut pas s'en tenir qu'à cet ouvrage et l'idée, c'est on doit... 2014, mettre en place un site et tous les acheteurs de cet ouvrage auront donc les coordonnées pour venir compléter puisqu'il y a encore des informations qui nous arrivent. Il y a une fabrique qui a malheureusement brûlé la nuit du 29 au 30 mars 2013, donc cette information est prête.
Il y a des archives qui arrivent encore ?
Oui, nous avons encore des personnes. Ah, mais attendez, mais j'ai ça, moi. Il fallait nous donner plus tôt, mais c'est pas trop tard, vous inquiétez pas.
Donc la vie continue, c'est formidable pour vous.
Oui.
Un motif quand même avec votre équipe, là, vos 10 amis, parce que je pense qu'il y a beaucoup
Voilà,
vous êtes une bande.
C'est une complicité et on continue d'être actifs puisqu'on a été amené à créer l'association Patrimoine Pirayon et on s'investit beaucoup dans les journées européennes du patrimoine pour continuer de valoriser ce patrimoine.
Et petit clin d'œil, il y avait un cinéma à Saint-Julien-Molette en 1906. C'est une blague, ça, c'est pas vrai.
Si. Ciné-Molette, l'association, a donc retracé l'histoire du cinéma, de l'arrivée du cinéma à Saint-Julien-Molette avec le cercle Jeanne d'Arc. C'était une maison paroissiale et on a eu les premiers films, 1906. On en a d'ailleurs, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, on a accès pour sortir un peu des bâtiments et essayer d'intéresser les gens à autre chose, on a fait toute l'histoire de l'image animée avant le cinématographe. On a débordé après, mais on était quand même arrivé à la projection en trois dimensions avec un très beau film sur Méliès. C'était d'un samedi passé. Enfin, on a eu un partenariat avec Ciné-Molette qui nous a permis de mettre en valeur tout ça. Le vendredi était consacré à plus particulièrement au scolaire, et puis le samedi et le dimanche, tout public.
Voilà, Saint-Julien-Molette.
Nous sommes admiratifs.
1200 habitants, formidable.
Une vitalité culturelle extraordinaire.
Merci, à bientôt pour un nouveau numéro de Mémoire Vive. On va bientôt vous emmener dans la vallée du Gier pour évoquer la résistance et les années de guerre dans la vallée du Gier. Ce sera un prochain rendez-vous de Mémoire Vive. Merci à Julien Mogilac, dont vous avez entendu la voix tout à l'heure, pour ce numéro et puis ce beau livre. On vous donnera après l'émission les coordonnées des endroits où vous pouvez vous le procurer.